Bien, et nous allons donc commencer. Bonjour et bonsoir plutôt et bienvenue à tous. Je suis ravie de m'associer à vous pour accueillir Prita Samarasan et Kunal Bazou. Je pense que notre rencontre va être placée sous le signe de la diversité. Diversité des... il faut régler. It's all right? Oui, je disais que je pense que notre rencontre va être placée sous le signe de la diversité, diversité des langues, des styles, des époques, des univers, des réalités humaines. Et en effet, lorsque j'ai découvert vos romans, Prita Samarasan et Kunal Bazou, j'ai été frappée par leur extrême différence, au point d'ailleurs que dans un premier temps, je me suis demandé comment il serait possible de faire dialoguer des auteurs dont les univers littéraires semblaient si différents. Et puis au fond, en regardant la diversité qui caractérise l'Inde, avec bien sûr notamment ces réalités linguistiques qui, je suppose, ont été abordées ici abondamment pendant les deux journées, donc je ne vais pas m'arrêter dessus, je me suis dit qu'il était bien sûr totalement normal que les formes romanesques, elles aussi, soient le reflet de cette diversité. Et puis, j'ai tout de même fini par trouver des liens entre vos textes, et bien évidemment, on va essayer de les mettre en lumière. Je fais d'abord des petites présentations. Prita Samarasan, vous êtes née en Malaisie, dans une famille de la communauté indienne qui a immigré en Malaisie, c'était à la fin du 19e siècle. Vous avez fait vos études aux États-Unis et vous vivez aujourd'hui en France. Vous avez d'abord publié en anglais aux États-Unis plusieurs nouvelles, et puis vous avez entrepris des recherches en musicologie interrompues qui portaient sur les musiques tziganes en France. Études interrompues pour vous consacrer donc entièrement à votre premier roman, et c'est de ce premier roman que nous allons parler ce soir. Il s'intitule « Et c'est le soir toute la journée ». Il a été traduit de l'anglais par Johan Gentric et il est paru chez Actes Sud en 2011. Kunal Bazou, vous êtes né à Calcutta, vous avez passé une grande partie de votre vie au Canada et aux États-Unis. Vous êtes professeur d'économie, vous avez enseigné à l'université McGill à Montréal et aujourd'hui vous enseignez à Oxford en Grande-Bretagne. Vous êtes l'auteur de trois romans, plus celui dont nous allons parler ce soir, qui est le seul traduit en français, mais vous êtes également l'auteur d'un recueil de nouvelles. Et puis vous avez, je crois, caché quelque part dans un tiroir une quantité importante de poèmes, qui n'ont pas encore été traduits et publiés. Et puis vous avez aussi écrit un scénario qui a été tiré de l'une de vos nouvelles, qui s'intitule « The Japanese Wife ». Le roman dont nous allons parler ce soir s'intitule « Le miniaturiste ». C'est un roman qui a été traduit de l'anglais par Simone Manceau et qui est paru aux éditions Philippe Piquier. Donc je le disais, deux romans extrêmement différents. S'il fallait dessiner un arc avec un spectre très large sur lequel se déploierait la forme romanesque, vous seriez peut-être l'un et l'autre aux deux extrémités. L'un, Le miniaturiste, est un roman historique qui se situe dans l'Inde moghole du XVIe siècle. L'autre, Et c'est le soir toute la journée, est un récit qui se déroule en Malaisie en 1980. D'un côté, nous sommes dans la magie des contes orientaux, nous sommes dans la richesse éblouissante et le raffinement extrême de la cour d'un empire, qui est l'empire d'Hindoustan. Et de l'autre, nous sommes dans l'univers contemporain, à la fois politique, social, mais aussi intime, d'une famille bourgeoise indienne qui vit en Malaisie à Ipoh. En dépit de ces extrêmes différences, je le disais donc, il y a des similitudes entre vous que nous essaierons de mettre en lumière tout à l'heure. Il y a peut-être une première chose que moi j'aurais envie de dire et qui vous relie tous les deux, c'est que ce sont deux romans qui sont extrêmement forts, des romans puissants, parce qu'il me semble que l'un comme l'autre s'attelle à, au fond, peut-être l'une des missions les plus intéressantes et les plus essentielles du roman, qui est de creuser l'expérience humaine dans toutes ses diversités et dans toutes ses complexités surtout. C'est peut-être une question sur laquelle nous arrêterons tout à l'heure. Mais d'abord, j'avais envie qu'on présente vos romans, qu'on en dise deux ou trois mots, et puis on engagera une discussion. Alors, Le miniaturiste, Kunal Bazou, c'est un roman qui est inspiré d'un personnage légendaire, qui est le fils d'un grand maître de miniature persane. Ça se situe donc dans l'Inde moghole, et c'est le personnage qui s'appelle Bizad dans le roman. La première question est toute simple, c'est celle de savoir pourquoi avoir choisi un sujet historique, d'autant plus que ça n'est pas la première fois, vous avez déjà écrit plusieurs romans historiques. Est-ce que c'est ce personnage-là qui vous a entraîné vers l'histoire, ou bien est-ce que vous aviez vraiment le désir d'explorer une fois de plus une époque lointaine ?
Why did I write The Miniaturist?
Pourquoi j'ai écrit Le Miniaturiste?
An historical subject.
That's right. 1999, 31st of December.
1999, le 31 décembre, c'était donc la veille du jour de l'an, et j'étais avec ma femme à Londres. J'ai vu que tout le monde avait bu.
The 21st century.
Tous ces gens dans la rue
accueillaient
la nouvelle année étant sous. Paris était déjà dans la nouvelle année depuis une heure, et pour nous, nous en étions proches.
Evening, as I was walking around Piccadilly Circus, Leicester Square,
et soudain, j'étais à Piccadilly Circus, entre Piccadilly Circus,
in my mind,
Square,
I was seeing vast Central Asian plains and forts and minarets. I didn't quite understand that why, as the world was welcoming the 21st century,
je me disais comment ça se fait alors que nous sommes à la veille du 21e siècle, j'ai l'impression de me retrouver dans le Moyen Âge.
That evening, I suddenly thought of the story of a miniature artist.
J'ai pensé à l'histoire d'un miniaturiste.
Which Mughal emperor? I didn't know.
Une cour.
And as we walked through the streets of London that night, the story of the miniaturist.
Je me promenais dans les rues de Londres ce soir, et c'est là que l'histoire a pris forme.
I was not really fond of Indian miniature art before I wrote this novel.
When I lived in India, I did not pay much attention to miniature art. Avant.
But because I thought of this story,
en Inde, je ne fais pas très attention à l'art miniature.
I went to bookshops
and
then back in Oxford went to libraries.
J'ai pensé à cela, et je suis allée dans les bibliothèques, dans les librairies. J'ai commencé à me renseigner sur les artistes miniatures, l'influence de la Turquie, de l'Asie sur l'Inde. Et là, j'ai découvert mon histoire qui se développait devant moi. Je n'avais pas prévu tel caractère, je n'avais pas prévu écrire un roman historique. Mais ce soir-là, j'ai eu cette idée sur cet artiste, et ensuite j'ai fait des recherches et j'ai écrit là-dessus.
Alors c'est un roman qui se déroule donc à la cour d'un empereur, et bien évidemment le sujet principal de ce roman, étant donné que le personnage principal est un miniaturiste et que c'est donc un artiste, c'est la question du rapport entre l'art et le pouvoir qui traverse absolument tout le roman et qui pose différentes questions. Il y a une phrase à un moment du roman où vous dites qu'au fond, l'empereur possède deux harems. Il a d'une part ses femmes et de l'autre ses artistes. Donc c'est une cour dans laquelle l'expression artistique côtoie le pouvoir en permanence et l'influence également.
I think it does. Every human activity, whether it is artistic
oui,
or athletic
toutes
or scholarly,
les humaines,
is mediated
que ce soit de l'art
and, the protagonist
dans
of
les
my
recherches,
novel, Behzad,
il y a toujours une relation de pouvoir.
He's the son
le jeune
of
homme
a
dans
Persian
mon
artist,
roman
who's come
est
to
fils d'un artiste perse
and he's incredibly
qui a
talented.
Énormément
his father
de talent.
Is the leading artist of
son
Akbar's
père
court.
Est un
so everybody
artiste
expects
proéminent
that he will
dans
one
la cour.
Become
et lui,
the leading artist
il s'attend
of India.
À devenir
he's the son of the boss.
Le meilleur artiste en Inde.
And
il est lui-même le fils
talented.
Du chef. Et il a énormément,
but
énormément
power
de
relationships
talent.
In the Mughal court
mais
and
les relations
his fascination
dans la cour
for a certain kind of painting,
sa fascination pour un certain type de peinture
leads to failure, and
ceci
thrown
le mène
out of
à
Mughal,
l'échec.
The Mughal court. And he goes wandering around the bad lands of Pakistan,
et
Afghanistan,
il commence à se promener
Asia, and ends up
au Pakistan, en Asie,
so indeed, it's a story
partout,
of an
et se retrouve en Turquie.
An incredibly
c'est l'histoire d'un individu qui a
relationship
de talent,
to power determines
et son
his destiny.
Rapport avec le pouvoir va déterminer son
and
destin.
I miss a question.
Est-ce que je n'ai pas répondu à la question
si, j'attendais la fin de la traduction, c'est tout. Alors, il pose, le miniaturiste pose la question sans cesse de la représentation et du coup, il pose aussi la question de la vérité. Qu'est-ce que la vérité de la représentation artistique ? C'est aussi une question qui est vraiment au cœur de... et qui bien sûr est vivante puisque tout ça s'actualise dans le personnage. Et vous dites à un moment qu'Ounal Bazou, l'artiste est comme le soufi, un homme mort ne vivant que pour la vérité. Moi, j'ai été frappée par cette phrase.
Thank you for bringing this up.
Oui, merci.
So when he fails as an artist,
lorsqu'il
he goes wandering
arrive à l'échec
around the world,
en tant qu'artiste, il se promène dans le monde,
drawing and painting.
Il arrête de dessiner, de peindre. Il réfléchit à quoi sert l'art. Il cherche la vérité de l'art. Et pour lui, c'était la reconnaissance sociale qui était la vérité de cet art. Lorsqu'il allait voir l'empereur qui lui disait « Tu es un grand artiste. » Maintenant, nous, en tant qu'écrivains,
Preeta has won the Mind Booker Award, then the world will say that she's a
lorsqu'ils reçoivent une récompense, alors là, le monde entier va penser
so,
que cet auteur est un grand écrivain. Il
truth,
pensait que la reconnaissance
the truth of art.
Est la
but when
vérité
he fails to win
dans
social recognition,
mais
and he travels all around the world,
la reconnaissance
all around
sociale,
his world,
et il voyage
finally
dans le monde,
to the truth,
il trouve enfin la vérité.
Real, if there is any one thing about art that is worthwhile,
si
which
veut,
is undeniable, is that the artist cannot stop himself or herself from committing art.
That
he or she has no choice.
Ce
like the son has
choix.
No option but to rise every day.
N'a pas le choix.
The artist has no option
de travailler
but to draw
chaque
or
jour.
Paint or create
il doit
every day.
Dessiner, créer,
and that
peindre
is the recognition, the truth about art.
Et c'est ça la vérité sur l'art. C'est ce qu'il reconnaît finalement à la fin de ses voyages.
Il faut peut-être ajouter, pour éclairer un tout petit peu le propos pour ceux qui n'auraient pas lu le roman, c'est que ce personnage de Bizat, qui est donc un artiste d'un immense talent, transgresse un interdit majeur, c'est-à-dire qu'il aime l'empereur. Il aime l'empereur alors qu'il lui est interdit de poser son regard sur la personne de l'empereur. Et donc, du coup, vous abordez aussi la question de l'interdit de la représentation de celui que l'on ne doit pas montrer. Et là, bien sûr, ça pose là, il s'agit d'un empereur, donc, mais ça pose aussi la question de la représentation et de l'interdit de la représentation du religieux, bien évidemment.
He is an incredibly talented artist, but
oui, il est un artiste qui a énormément
century,
de talent, mais l'art au XVIe siècle
was very strongly determined by traditions.
Était déterminé énormément par les coutumes et les traditions. Le portrait humain ne devrait, par exemple, jamais être dessiné en trois quarts, en profil de trois quarts.
Rules about what
il y avait des règles
très strictes
et définies sur ce que l'on peut peindre et ce que l'on ne peut pas peindre.
Emperor,
il commence à peindre l'empereur et le présente comme son amant.
And he draws these forbidden portraits
donc,
and paintings depicting himself, Behzad the artist, and Akbar the emperor as lovers.
C'est bizarre,
now obviously homosexuality is punishable by death under Islam.
Qui sont amants.
So these are forbidden paintings of forbidden
donc,
subjects.
Ces peintures sont interdites.
And, but because
ils sont
he's a genius, because he's
interdit.
Exceptionally talented, he flouts all the laws of painting.
Parce qu'il a tant de talent,
this is what I want
qu'il
to draw.
Décide.
And obviously his enemies, who are lurking,
dessiner,
the palace politics which is all around him, they discover these paintings
puis
and they discredit him in the eyes of the emperor.
Et il est discrédité
because
aux
he's the son of the boss, the great artist, he's not put to death,
fils
as he would have been. But he's expelled from the empire.
Du chef.
So it, the novel also evokes notions about what is permissible in art.
De la cour.
What is the relationship
et
between religious formulations
de ce qui est
representation and art?
Des représentations et de la religion.
Alors pour terminer cette première phase de présentation du miniaturiste, je vous propose, Ounal Bazou, une lecture d'un tout petit extrait. Et finalement, vous avez fait le choix de lire ce tout petit extrait en anglais. Voilà, donc une page, c'est juste pour vous permettre d'entendre un tout petit peu le texte.
I must apologize to you that I do not read, speak or write in French.
Je suis vraiment désolé, je n'écris pas, je ne lis pas,
and there was an
je ne parle
option,
pas le français.
I just wanted to make sure that you understand that,
il y a eu l'option
passages of this book would be read out in French.
De lire un passage de ce livre en français. J'ai
and
envie de vous lire une partie de ce livre.
In
et so if je peux seulement lire en anglais.
Words, please excuse me, I'll read in English.
Alors excusez-moi, mais je vais lire maintenant en anglais.
The segment I want to read to you is
je vais
when
vous lire
Behzad,
un passage
the artist, the young
qui est quand
artist,
Behzad, starts his rebellion. Le jeune artiste commence à se rebeller.
He's taught by an elderly artist, another Persian master.
Et il parle à un autre artiste perse. Il commence à.
At 14, Behzad refused to go for his lessons.
À 14 ans, Behzad a refusé d'aller prendre ses leçons. Cela avait commencé quelques mois auparavant avec quelques disputes. Il avait d'abord refusé de dessiner le shamsa, le lever du soleil oriental, qui est le départ de tous les manuscrits.
Behzad
avait ignoré ses devoirs.
Of a child wonder.
Et tout le monde commençait à entendre parler d'un génie.
Wealthy patrons of Agra were keen to have their portraits drawn by his young fingers, a touch of youth to soften the blows of time. The courtier servants would stop Mir Sayyid Ali frequently on his way to the Kitab Khana, whisper their requests into his ear.
Avec des regrets qui suceraient dans son oreille. Le garçon avec une main exceptionnelle. Maintenant, c'était le moment de partager ses fruits. Le médecin Hakim, donc du roi, le médecin du roi, dessinez-le. Il a reçu l'ordre. Puis ça regarde dans les yeux de Hakim comme si c'était lui le médecin et son sujet le patient. Le Hakim.
When Mir Sayyid Ali returned, he found the portrait
a fait
in black
une grimace. Quand le chat est revenu, il a vu un portrait en noir et blanc avec des doigts usés et les veines sous le cou comme des serpents qui se croisent les yeux et les jambes. L'artiste a fait des excuses. Il a demandé à Hakim de quitter la pièce en l'invitant de revenir bientôt pour une autre session. Puis il s'est tourné vers Behzad avec un pinceau d'une main et l'autre levé pour le frapper. Il a commandé son élève de recommencer. Mais vous m'avez demandé de faire quelque chose de ressemblant. Non, mais pas de lui, de sa personne vraie. Et il a frappé. Vous êtes qui? Un prisonnier qui doit parler la vérité sous serment et rien d'autre. Mais le garçon a refusé d'illustrer les mémoires du grand-père de l'empereur, le grand Mogol lui-même. Mais vous êtes qui pour refuser? Si Behzad, qui porte le même nom que vous, peut illustrer le guerrier, pourquoi vous allez, l'épouse du grand guerrier, pourquoi vous refusez? Pourquoi vous voulez simplement désigner Razam ou Bazam? Razam ou Bazam, c'est trop grand pour son petit visage mignon. La guerre et l'amour, l'amour et la guerre, l'amour. Pour une fois, Mir Sayyid Ali l'a regardé de manière gentille en disant, il a vu que l'artiste s'est réveillé, c'était peut-être le moment pour que l'enfant devienne un homme. Il a mis sa main sous l'épaule de Behzad. Ni la guerre, ni l'amour. Vous n'avez pas compris Behzad. Si vous faites un grand effort, avec un grand effort, il a pris dans une vieille boîte, il a pris trois miniatures et les a montrées. On enlevait la poussière avec un pinceau. C'est la peinture la plus magnifique dans toute la Perse. C'était la nuit, c'était un chevalier sur un cheval mythique, Barak, avec l'archange Gabriel qui marchait devant lui. Le prophète, de sa tête émanait un éclat plein de feu dans les nuages, dans le ciel bleu avec des éclats d'étoiles. Le ciel noir est devenu un jardin avec la terre dessous, avec des anges et leurs ailes qui le dépassaient. Les deux.
Then turning to the second, the death of Majnun at Layla's grave, Mir Sayyid Ali started to recite Nizami's poems.
Ali a commencé à réciter les poèmes de Mir Sayyid Ali. Behzad a vu les amants enfantins, dont l'un était mort et l'autre était en train de mourir. Avec leur passion, revenait avec une note de plus en plus profonde, des yeux comme des narcisses noirs qui laissaient tomber des larmes sur une rose, un or éclatant du désert sous un ciel d'azur pur avec des fragments de nuages blancs dont les yeux n'ont jamais vu. Rien de ressemblant dans tout le temps. Dans la dernière peinture, il y avait un derviche à genoux avec une femme sur les épaules, avec le visage sombre et les doigts qui comptaient et les yeux qui ne regardaient pas la guerre, mais le triomphe, l'abandon, pas l'amour. la prière.
Mirsad Ali,
a continué comme s'il était en extase. C'était le premier artiste qui a révélé le pouvoir de la lumière, qui quitte l'univers sans couleur ni brosse, et donne la vie à des visages éclatants, qui met de la poussière argentée dans le ciel, qui met le soleil sur un horizon rouge. Il faut voir ce que lui voit, pas la vue d'un mortel, mais un monde lavé dans une lumière magique avec de la couleur. Il faut copier en miniature le monde que lui a peint, ce monde où tout est choisi avec précision, la profusion de la nature simplifiée, les hommes et les femmes magnifiquement beaux, tout est précieux, tout est parfait, comme lui a voulu que ça soit. Mirsad Ali a soupiré et son visage dur s'est adouci. L'artiste est le plus proche de tous au créateur. À 14 ans, il a arrêté ses leçons. Il a dit à son enseignant, dis-lui, il a dit dans une voix qui venait de muet, Bézart est maintenant un artiste.
Merci beaucoup, merci. Alors, on présente votre roman, Prita Samarasan, donc, et c'est le soir toute la journée, qui se passe donc en Malaisie, à Ipoh. C'est une ville qui est située au nord de Kuala Lumpur. C'est un roman qui se déroule dans une famille de la bourgeoisie indienne, famille dont la vie est analysée dans ses moindres détails. Alors, avant d'en venir et de raconter un peu le roman, moi j'avais envie de dire en tout premier lieu que c'est un roman de personnages au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a des personnages extrêmement forts qui sont tous les membres de cette famille. Tout se déroule, ou l'essentiel du roman se déroule à l'intérieur de la maison, donc dans une sorte de huis clos. Et j'avais envie de vous demander si finalement ce roman, il avait commencé pour vous avec la construction de l'un de ces personnages qui avait en quelque sorte guidé l'écriture du roman, parce que c'est vraiment un roman, un roman de personnages pour moi. C'est comme ça que je l'ai lu et ressenti.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai joué depuis longtemps avec l'idée d'écrire un roman sur une domestique, parce que j'étais vraiment fascinée par le rôle des domestiques dans les familles, surtout les familles indiennes en Malaisie. Et donc, ce personnage, le personnage de la jeune domestique, m'est venu très tôt. Et presque en même temps, j'ai eu l'idée, les personnages des deux sœurs, une grande sœur qui va bientôt partir à l'étranger et une petite sœur qui va être laissée derrière. Cette idée m'est venue presque à la même fois. Et donc, j'ai écrit le roman comme pour découvrir en fait les liens entre la domestique et ses deux sœurs. Qui était la domestique? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la maison? Quelles étaient les connexions, les liens entre ces trois jeunes filles en fait? Et je savais pas quand je commençais, je savais pas les réponses à ma propre question.
Alors il se trouve que la domestique qui s'appelle Shelam va jouer un rôle extrêmement important. Alors, cette famille est une famille indienne, donc qui vit en Malaisie, et vous reconstituez à travers la famille et également le personnel qui travaille à l'intérieur de la famille, parce que c'est une famille de la bourgeoisie, donc il y a un chauffeur, il y a une cuisinière, il y a Shelam la bonne, comme l'appellent les enfants, mais en secret, puisque la mère ne veut pas que l'on utilise ce terme. Et donc, vous reconstituez dans cette famille, finalement, le paysage humain de la Malaisie, avec toutes ces minorités, et également les tensions qui vont de pair, bien évidemment, avec la constitution d'une société dont le tissu est constitué de groupes entre lesquels les relations sont parfois assez tendues.
Est-ce qu'il y avait... J'ai pas compris la question, en fait. Vous aviez une question à poser ou...
Non, c'est juste pour commenter le fait que cette famille est le reflet de la société malaisienne dans sa totalité, à travers la famille qui est indienne, et puis aussi les personnages adjacents que sont la cuisinière, le chauffeur.
J'avais pas le but de. Tout à fait, la famille est un reflet de la société, mais c'était pas mon but au début. Mais j'ai fini par découvrir que c'était impossible de raconter une histoire histoire malaisienne sans parler en fait des grandes questions de la Malaisie, des relations entre les races, des relations entre les classes. C'était comme dans tout autre pays, c'est impossible de raconter une histoire du pays sans aborder, sans heurter aux questions qui sont importantes au pays.
Il y a des tensions très vives qui petit à petit se font jour dans cette famille qui a en apparence tout pour être heureuse, notamment une aisance matérielle assez grande. Et puis petit à petit montent des malaises extrêmement forts et on s'aperçoit qu'entre les différents membres de cette famille, il y a de graves problèmes de communication, il y a des tensions, il y a des malaises extrêmement intenses. Vous pensez que la structure même de la famille telle qu'elle se vit aujourd'hui en Malaisie, c'est une structure qui secrète ce genre de malaise ?
En fait, vous avez dit des problèmes de communication et c'est très bien, c'est bien dit parce que moi je trouve que la Malaisie est une société où beaucoup est compris entre les gens, mais on ne peut pas en parler. Donc, ce qui fait que, en fait, il y a beaucoup qui se passe dessous les surfaces. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question, mais je pense que c'est assez typique dans la société et dans les familles Quand il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, il y a toujours des possibilités que moi je pense X et toi tu penses Y. Et en fait, comme on va jamais discuter la réalité, on peut chacun avoir des idées très différentes. Et à un moment donné, ça va sortir ou non. Mais dans cette famille, ça sort.
Oui, le miroir se brise à un moment, puisqu'il y a finalement, vous parlez beaucoup de la question des apparences, justement. Hein. Les apparences sont contenues jusqu'à un certain moment, et puis à un moment, elles ne peuvent plus être contenues. Et tous les secrets, et tous les mystères, et tous les non-dits finissent par sortir. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une violence terrible dans cet univers, apparemment très lisse, mais il y a une violence terrible.
Oui. Parce que c'est ça le risque, en fait. Une société où beaucoup de choses ne se disent pas, ça peut marcher très bien. Si tout le monde suit les mêmes règles, ça peut marcher très bien. Mais du moment où il y a une personne, il suffit d'avoir une personne qui va dire ce que les gens ne veulent pas entendre, cette personne peut détruire toute l'illusion, en fait. Parce que oui, tout à fait, c'est une société qui dépend des illusions partagées. Donc,
J'avais relevé une phrase qui traduit peut-être cela, mais que j'avais envie de vous demander de commenter. Vous écrivez ceci, « Le paysan malais consacrait chaque matin quelques heures à patauger mollement dans les rizières. Le coulis chinois filait doux son chemin à travers les vapeurs d'étain et d'opium. L'Indien sous contrat, tellement grisé de jus de bétel qu'il était incapable de creuser des tranchées, 12 heures d'affilée, rentrait chez lui en traînant les pieds pour se saouler de mauvais taudis. Pendant 70 ans, ils avaient tous vécu en harmonie avec les Blancs qui dirigeaient le pays. » Voilà, finalement, cette phrase peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais elle résume un tout petit peu le propos du roman.
Cette phrase, je dois expliquer, la phrase, je pense que... En fait, je m'en rappelle pas très bien, mais pour moi, cette phrase représente ce que pensaient les Anglais qui géraient le pays pendant 150 ans, 200 ans. Et donc, c'est les Anglais, en fait, les Britanniques qui ont divisé le pays. Et pour mieux gérer le pays, on connaît très bien la phrase en anglais, divide and conquer. Et c'était pour mieux gérer le pays, contrôler, maîtriser le peuple, qu'ils ont décidé que les Malais étaient comme ça, les Indiens étaient comme ça, les Chinois étaient comme ça. Et en fait, la race malaise n'existait même pas avant l'arrivée des Britanniques. Les gens, il n'y avait pas cette idée d'une race monolithe, une race pure, une race qui était incapable de changer. Et donc... Les, les, euh, pour moi, ce que, la phrase que vous avez lue n'est pas du tout la vérité actuelle. Mais le problème en Malaisie, c'est que les gens ont beaucoup de difficultés à laisser derrière eux les idées d'eux-mêmes. Ils ont gardé, en fait, les Chinois et les Indiens et les Malais ont gardé l'idée qu'eux, ils sont comme ça. Comme les Britanniques ont décidé. Et c'est très difficile pour le pays de sortir de l'idée coloniale des peuples, des trois peuples.
Alors, il y a cette dimension sociale et même politique que nous sommes en train d'évoquer à l'intérieur de votre roman, Prita Saramazan, mais il y a aussi beaucoup et même essentiellement une dimension intime et qui passe par une description extrêmement minutieuse du quotidien. Vous avez, j'avais presque envie de dire que vous avez une façon de vouloir appréhender tout le réel, les sons, les odeurs, les goûts, avec une grande sensualité. C'est assez frappant, hein. Il y a beaucoup de détails dans le roman, énormément de détails. Vous fouillez beaucoup, beaucoup, beaucoup des petites choses qui n'ont l'air de rien, la façon de boire le thé, la façon de regarder un arbre dans le jardin. Voilà, c'est une langue qui est extrêmement détaillée.
Oui, j'ai peut-être pas beaucoup à dire sur ça, mais oui, j'ai la tendance moi-même de remarquer les détails. Et pour moi, il y a presque pas de détails qui n'a rien à voir avec l'histoire. Donc tout peut être important pour l'histoire. Et c'est la même chose avec. Il y a beaucoup de détails sur, par exemple, les objets physiques, les meubles dans la maison. Qui pour moi. Et je pense que ça va être la même chose pour quelqu'un qui connaît très bien la Malaisie, que chaque détail en fait dit plein de choses sur le type de famille que. Quand par exemple un Malaisien lit la marque de thé qu'ils ont à la maison ou la marque de boisson chaude, ils vont déjà savoir, ah oui, c'est ce genre de famille. Et c'est pour ça que je pense que, en fait, en écrivant, j'ai pas beaucoup réfléchi à la théorie, à la raison pour laquelle je me sentais obligée de mettre tous ces détails. Mais je pense que c'est pour ça, en fait, que moi-même, quand j'imagine une famille telle que cette famille, j'imagine déjà tous ces détails, tous les détails de leur vie quotidienne.
Comment leur frigidaire est rempli et comment ils se nourrissent, parce que la nourriture occupe une place importante. Oui. Bon. Mais je vous propose qu'on écoute également un extrait pour cette première partie de découverte des textes.
Ok, je vais lire un passage qui se déroule en 1980. Et donc là, au début de ce passage, deux personnages, la maman de la famille qui s'appelle Amma et la fille qui a 6 ans, la fille aînée qui a 6 ans à l'époque qui s'appelle Uma, sont sur le point de partir en voyage en train. Ils partent d'Ipoh, qui est leur ville, pour aller à Kuala Lumpur, où vit la sœur de la maman. Et donc voilà. À l'intérieur... Le train était tout vert, rideau vert, siège vert, porte verte entre les voitures. Une tétière brodée des mots « Keretapitan Armalayu » était délicatement posée sur chaque appui-tête. « Ça veut dire quoi, Amma ?» demanda Uma. « Keretapitan Armalayu ?»« Tu ne vas pas commencer, Uma. Tu sais bien que je ne sais pas tout ça. » Je n'ai pas étudié leur magnifique langue malaise à l'école. De toute façon, je crois que c'est juste une histoire de train. Rien d'extraordinaire. Mais quelqu'un protesta. Quelqu'un qui, tout au moins, désirait nuancer ce verdi expéditif. C'est juste une histoire de train. Et ce rien d'extraordinaire. Et tout au plus, eh bien, ce que cette personne désirait tout au plus dans le meilleur des mondes possibles, il n'est pas encore temps de le dire. Pas tout à fait. Pour l'heure, ce quelqu'un, un Malais assis de l'autre côté de l'allée, derrière Amma et sa fille, s'appliquait à corriger certaines idées fausses. « Eh, Tangachi !» appela-t-il doucement, se penchant sur son siège, les dents jaunes sous le velours noir de son coq. « Tangachi !» Tangachi voulait dire « petite sœur » en tamoul. Mais Uma, 6 ans, vêtue de bas et d'une robe à smock avec ceinture à nœuds, savait deux choses sans avoir besoin d'y penser. 1. Ce Malais ne parlait pas vraiment tamoul. Et 2. Elle n'était pas la petite sœur de personne. Je ne suis pas Tangachi, dit-elle, avant d'ajouter en guise de présentation franche mais amicale. Je suis Uma Rajasekaran. Sous-entendu, mais clairement ressenti par l'assistance. Et toi, t'es qui, impudent porteur de son coq aux dents jaunes? Tss, fit Ama en lui donnant une tape sur le genou. Ne sois pas grossière. Elle ferma les yeux, éblouie par les flots de lumière verte qui passaient à travers les rideaux, et appuya sa tête contre le siège. « Oh, oh, vraiment désolé, Tangachi, répondit le Malais, mais je vais te dire une chose, d'accord ?» Uma regarda l'homme en plissant les yeux. Juste au-dessus de son sourcil gauche, le velours usé de son sangkok avait laissé place à une tache pâle, miteuse. « Ta pauvre maman, tu lui poses tellement de questions. Moi, je réponds pour toi. Je peux ?» Au loin, presque imperceptible, on entendait la voix d'un vendeur qui remontait le train. « Naslamak, 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 karipap ! Naslamak, 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 karipap !» Ketapitanah Melayu, ça veut dire chemin de fer, Tangachi continua l'homme. Ça veut dire chemin de fer du pays malais. Pays malais, ça veut dire Malaisie, Tangachi. Tu sais pas non plus ça, hein? Tu me regardes avec des grands yeux. Même le nom de ton pays, tu sais pas? Ayoyo, Tangachi, même ta propre langue nationale, Taktaoka. Pas honte, vivre au pays malais et pas parler le malais? Et tes papa, maman, pas honte, vivre au pays malais et jamais apprendre le malais aux enfants? Le pays malais, mais c'était magique, c'était impossible. Un pays de montagnes fait pour les géants, les monstres et pour des vaillants héros en sarong. Le pays malais, ça sonnait comme le pays des merveilles ou le pays imaginaire. Ça ne pouvait pas être un endroit où les gens crachent dans les parterres de fleurs, pètent dans les halles de gare bourrées de monde et servent de l'enchikabine trop gras. Pour lui, avoir parlé du pays malais, un pays manifestement invisible à l'œil des non-initiés, Uma était presque tentée de pardonner au porteur de son coq d'avoir dit Tangachi, de s'être approprié des mots sur lesquels son sang ne lui donnait aucun droit pour les utiliser, qui plus est, à mauvais escient. Voire de lui pardonner jusqu'à ses impudents « vous n'avez pas honte » qu'Ama avait accueilli en plissant le front, les joues en feu. Mon appa avait-elle envie d'apprendre à l'homme aux dents jaunes et bien plus intelligent que vous, et il parle anglais comme il faut, lui, pas comme vous. Mais ça ne se faisait pas de dire des choses pareilles à des adultes qu'on ne connaissait pas.
Merci beaucoup. Et genre, je suis contente que vous ayez choisi cet extrait en particulier parce que je disais tout à l'heure qu'en dépit des différences de vos deux textes, moi j'avais quand même identifié des choses qui vous reliaient. Et précisément ce qui vous relie tous les deux dans vos romans, c'est le fait que vous mettez en scène des êtres qui sont déracinés de leur culture d'origine. Chez vous, Kunal Bazou, ce sont des Perses qui sont venus en Hindoustan. Et chez vous, Prita Samarasan, ce sont des Indiens qui sont venus en Malaisie. Autrement dit, vous abordez l'un comme l'autre, la question de l'exil de loin, et surtout le fait que vos personnages appartiennent à des minorités, ce qui détermine quand même grandement leur histoire. Kunal Bazou.
I think that's a fair observation.
Oui, je pense que c'est assez juste comme remarque. Le centre existe toujours, mais la cible du romancier, c'est par rapport à la périphérie et le centre. Et je pense que c'est assez juste pour le roman que j'ai écrit moi-même, où à un moment donné, le centre et la périphérie se rencontre, voilà, une personne qui n'est pas comme les Tamouls en Malaisie. Bézar appartenait au centre. Elle faisait partie de du pouvoir dominant, mais il est rejeté à cause de son accent individuel et non pas à cause de, des considérations complexes sociales, politiques et historiques. Et je pense qu'ils sont, au contraire, manifestes dans les écrits de Prita. Pour moi, c'est un exil qui a été choisi. C'est ses actions qui ont fait qu'il devienne exilé, en exil. Il aurait pu rester au centre. Il aurait pu rester le grand artiste, mais son expérience de l'exil, à un moment donné, va refléter ce qui est exprimé dans les livres de Prita. La marginalisation, non seulement à cause de sa langue ou de sa religion, mais à cause de ses choix artistiques. Donc, je pense que votre remarque est valable.
Mais dans votre roman, Prita, la marginalisation, elle est absolument essentiel, parce que c'est ce qui fonde et détermine la spécificité de votre famille, c'est qu'elle est indienne, donc elle est minoritaire dans un pays. J'ai regardé, parce que moi je ne savais pas quelle était la répartition en fait en Malaisie, mais les Malais donc sont quand même très très majoritaires, et donc lorsqu'on est indien, même riche, ce qui est le cas de cette famille, on est regardé comme des étrangers, et c'est ce que vous montrez sans cesse.
Oui. En Malaisie, en fait, le gouvernement continue de nous appeler des immigrés. Et je dois préciser que ma famille a vécu en Malaisie, ma famille vit en Malaisie depuis le début de la 20e siècle. D'utiliser ce mot des immigrés, déjà vous pouvez voir que nous ne sommes pas acceptés comme des citoyens du pays. Et tout à fait, le fait d'appartenir à une minorité décide le destin de cette famille, et du père surtout, qui avait des rêves, des espoirs pour lui-même et pour son pays, et qui l'a pas pu il n'a pas pu atteindre, il n'a pas pu réaliser ses rêves à cause de sa race. Il n'y avait pas d'autre explication, il n'y avait pas d'autre raison.
Vous donnez d'ailleurs de l'exil une définition que je lis. L'exil est une île destinée aux gens qui ne sont plus ce qu'ils ont été. Il y a l'idée là qu'il y a la perte d'une grandeur passée ou d'un rêve, d'un espoir, comme ce que vous venez d'évoquer, même au niveau politique, parce que le personnage du père est porté par l'ambition d'apporter une contribution à l'édification de son pays, mais ses espoirs sont sans cesse refoulés par la réalité en fait.
Oui, les espoirs du père. Actuellement, en Malaisie, je dois dire que les minorités, surtout les minorités de l'âge de mes parents, gardent pas beaucoup d'espoir en ce moment-ci. L'espoir dans mon roman, c'est l'espoir des années 60, où il y avait toujours la possibilité d'une Malaisie pour tous les citoyens, une Malaisie qui pourrait appartenir également aux Malais, aux Chinois et aux Indiens. Et on a largement perdu cette possibilité après les émeutes de 69. Et maintenant, peu à peu, après après 2008, il y avait un changement en Malaisie. Le parti qui a gouverné la Malaisie pendant 50 ans a perdu un peu de pouvoir, et là donc actuellement il commence à avoir à nouveau un peu d'espoir, mais l'espoir c'est quelque chose qui est cher en Malaisie, il y en a pas beaucoup.
Il y a peut-être un autre point qui vous rapproche tous les deux. Vous abordez de façon directe, mais c'est fort présent tout de même, la question des écarts considérables de conditions entre les nantis et les déshérités. Alors chez vous, Kunal Bazou, ça passe par le même personnage, c'est-à-dire que c'est le personnage de Bizade qui, après avoir fréquenté la cour de l'empereur, donc connu les fastes et les honneurs, est soudain dégradé, chassé de la cour de l'empire et qui vit la misère dans les bouges. Et chez vous, Prita Samarasan, le clivage il est très net, mais cette fois-ci il se joue entre la famille et puis les gens qui sont à leur service, et notamment ce fameux personnage de la bonne. Donc, est-ce que vous chez l'un et chez l'autre, il y avait le désir de faire passer ça dans vos textes, ou bien est-ce que c'est venu se glisser de façon insidieuse? The question about les clivages, la question des clivages sociaux, les écarts très nets entre les fastes de la cour de l'empereur d'un côté et la réalité des bouges dans laquelle finalement votre personnage va finir par tomber.
Ce qui est intriguant, quand la chose est intrigante par rapport à la majorité dans une société, c'est que la majorité ne reconnaît pas l'existence des autres réalités. Et c'est évidemment vrai. J'ai passé beaucoup de temps en Malaisie pour donner des séminaires et écrire lire des livres. Et j'en compte souvent des thèmes similaires, des Chinois, des Indiens et des Malais. Mais je fais partie, moi, de la majorité, la communauté majoritaire en Inde. Même si je suis athée, je suis né dans une famille hindouiste, donc je fais partie de la majorité. Et je n'apprécie pas également je ne comprends pas les défis avec lesquels les minorités sont confrontées, les castes minoritaires, par exemple. C'est très facile de penser qu'on est des acteurs majoritaires et clés dans une société et que les autres sont presque invisibles. Et je crois que vous avez raison de dire que dans les deux romans, il y a ce clivage, cette division entre le pouvoir dominant et le centre et tous ceux qui sont aux marges. Le point que je voulais souligner au travers de cette histoire, ce n'est pas un point de philosophie, mais c'est le fait que dans cette petite différence, l'accord de raid entre le fait d'appartenir ou pas appartenir, c'est très facile. C'est possible de venir de la majorité, mais par vos actions, vous pouvez être chassé pour faire partie de la marge. Par exemple, en Inde, il y a des individus qui font partie de la culture dominante ou la religion dominante. Ils se sont positionnés et à ce moment-là, ils se sont marginalisés eux-mêmes et pour la société, ils sont invisibles. Il y a un clivage dans la société indienne entre les personnes qui soutiennent les droits des tribus et ceux qui sont minoritaires au niveau ethnique dans une société dominée par les castes haut placées. Et si vous prenez une position comme ça publiquement, on peut vous dire que vous êtes maoïste et on peut vous mettre en prison. Même si d'un point de vue démographique, vous êtes. Même si votre position démographique est un marque très claire de cette division, il y a d'autres éléments en termes de vos choix individuels. Je vais vous donner un autre exemple. Après que j'ai écrit Le Miniaturiste, je faisais une tournée en Inde et le journal qui appartient au parti fondamentaliste BJP, hindouiste, un journaliste est venu de ce journal et ils ont dit, Monsieur Basu, vous êtes hindouiste, comment ça se fait que vous ayez écrit un roman musulman? Et j'ai dit, mais non, j'ai une réponse, mais est-ce que vous allez la publier? Ils m'ont dit oui. Ils ont dit, mais voilà la réponse. Je suis un vrai descendant des Moghuls. Les Moghuls, ce sont mes ancêtres. Et comme de tous les Indiens, peu importe leur religion actuelle, parce que la culture syncrétique des siècles 16e et 17e nous a rassemblés en tant qu'Indiens. Et par conséquent, dans les États où ce journal était dominant, ils ont marginalisé mes Roumains. Ce n'est pas une marginalisation extrême comme pour les minorités ethniques en Malaisie, mais je ne peux pas comparer. Mais ce que je veux dire, c'est que la majorité, dans la plupart des situations, considère que les autres qui les entourent sont invisibles. C'est la même chose en Grande-Bretagne. J'habite un pays où je suis en principe une minorité ethnique et c'est court par rapport à la multiplicité des cultures, comme vous avez aussi en France, ce discours et la relation entre les ethnies britanniques et non britanniques. Et souvent, on discute et on entend ce langage, nous, la société, et l'autre, les immigrés. Alors que les Indiens sont venus en Malaisie pour travailler sur les plantations au début du XXe siècle. Donc ce sont des constructeurs. Ils ont construit la Malaisie. Ils ne sont pas immigrés. Et de la même manière, on décrit comme des gens qui sont des minorités ethniques, mais ce sont des gens qui ont contribué à ces sociétés en les construisant.
Dans votre roman, Prita Samarasan, les clivages, ben, ils sont très simples et ils passent de façon tout à fait explicite, notamment par le biais de ce très très beau personnage dont on a parlé au tout début de notre conversation tout à l'heure, qui est le personnage de la bonne et de la condition qui est faite donc au personnel dans la maison. Donc là, les clivages sont explicites, quotidiens et passent justement par les moindres gestes de la vie.
Si j'ai bien compris, en fait, il y a bien des écarts très nets, comme vous avez dit, entre les races, mais aussi, comme vous avez vu dans la famille, entre la bonne, elle est indienne, et la famille aussi, mais entre eux aussi, il y a des écarts très nets. Donc, ce que je voulais, en fait, non, je peux pas dire que je voulais montrer ça parce que c'était pas mon but, mais j'ai fini par montrer que même dans la communauté indienne, il existe vraiment des divisions, très 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 nette entre les riches, les pauvres, les gens d'une classe, d'une autre, et qui sont pour moi, en fait, quand je pense à ça, j'ai aucun moyen de prouver ma théorie, mais je pense que les divisions sont encore plus nettes à cause du système politique en Malaisie. C'est parce que les Indiens se sentent obligés à lutter contre les Malais, contre les Chinois. Il y a toujours cette sensation de afin de gagner pour moi, pour ma famille, je dois vaincre les autres. Et donc, dans la communauté indienne, il y a toujours cette on ne peut pas. C'est une sensation qu'on ne peut pas quand ça existe dans sa vie. Soit ça existe tout le temps, soit ça n'existe pas. Et donc, si c'est la façon de penser, si c'est déjà la mentalité, ça va être le cas tout le temps. Et donc, même dans la famille, dans les familles, dans les des foyers, il y a toujours cette sensation de compétition. Il y a beaucoup plus de compétition que de coopération, en fait. Et donc, pour pouvoir protéger la famille, pour pouvoir protéger et glorifier la famille, le statut de la famille, il faut toujours, on dit en malais, mettre le pied sur la tête de quelqu'un d'autre. Et dans le cas de cette famille, c'est la tête de la bonne.
Oui, c'est exactement ça, oui. Il y a encore une chose qui vous rapproche. Vous voyez, j'ai commencé par dire que vos romans étaient essentiellement et fondamentalement différents. Mais je crois qu'il y a encore une chose essentielle qui vous rapproche tous les deux et qui est peut-être une chose plus en arrière-plan dans vos deux romans, mais qui me semble essentielle, c'est qu'au fond, ce sont tous les deux des romans sur la dégradation et sur la chute de l'homme. Alors, chez vous, Kunal Basu, c'est la dégradation et la chute d'un artiste qui, finalement, au fond, meurt de son talent trop génial. Mais c'est la dégradation d'un homme dont il est question.
Sorry, the question again is.
Je disais que c'était le dernier point qui vous rapprochait tous les deux dans vos romans, c'est que en arrière-plan, vous abordez tous les deux la question de la dégradation et de la chute de l'homme.
The decline of the character.
C'est yeah. ça. Oui.
The way I view my central character
mon personnage central, c'est l'histoire donc de la dégradation, le déclin, et aussi son élévation. Le déclin, c'est dans sa condition matérielle, parce que la personne a commencé avec beaucoup d'espoir et de promesses, avec un grand statut dans la société, et à cause de ses choix personnels qu'il a fait, la personne a été exclue, et il finit par comme un mendiant. Il mène la vie de mendiant dans le marché, il mange comme un animal, des petits bouts de nourriture à la merci des autres. C'est une vie terrible, terrifiante. Mais en fin de compte, quand il revient à Gras, comme un homme qui vit dans la défaite, il est vaincu, il rencontre Akbar. pour la dernière fois. Elle reconnaît la value de cette amitié que Akbar a toujours à son égard, mais n'a pas pu exprimer, vu les contraintes des temps. Parce qu'à la fin, quand il rencontre Akbar, Akbar dit, mais tu es un saint, Bazard, seulement un saint est vraiment aveugle et ne voit que le divin à son intérieur. Mais je voudrais que tu deviennes artiste pour une dernière fois. Et Akbar lui demande de faire son portrait une dernière fois. Et là, Akbar est en train de mourir. Mahrazad, son portrait. Donc, dans un certain sens, c'est un roman qui parle du déclin d'une personne, mais aussi une espèce d'élévation spirituelle. Et je pense que Bersart devait faire ce voyage. Il devait subir ce voyage pour arriver à ce point où il était élevé spirituellement. Il a dû payer le prix de sa célébrité, de sa carrière, de sa relation avec son père, pour reconnaître qu'est-ce qui est vraiment la valeur de l'art, la vraie valeur de l'art dans sa vie. Et je pense que c'est ça son élévation dans l'histoire. Mais je suis d'accord avec vous que c'est une histoire qui concerne une personne qui se dégrade, qui est en déclin, qui est confrontée avec la défaite dans toutes ses actions.
Il va quand même jusqu'à la perte de la vue, ce qui pour un artiste est bien sûr le déclin suprême. Pour un peintre, le déclin suprême, de se priver lui-même de la vue.
Yeah. Right. Il y a un point dans le roman
qui dit, mais à quoi sert cet art? Qu'est-ce que j'ai fait? Mon travail n'a pas aidé ma belle-mère avec qui il a été proche, mais ça ne m'a pas aidé moi. Si je devais mettre un foulard autour de mes yeux pour ne pas voir, et si je m'empêchais de voir, alors je ne peindrais plus. Donc il met un bandeau sous ses yeux de manière volontaire, et ça fait partie de sa quête, son cheminement, pourquoi je ne peux pas arrêter la source la plus importante de ma douleur. Ma douleur vient de mon art que j'aimais tellement, et pourquoi je ne peux pas arrêter cette douleur en mettant un bandeau sous les yeux. Mais voilà, telle est la puissance de l'art en lui qui commence à dessiner sur la terre avec une petite tige, même s'il a un bandeau sous ses yeux, et de voir cet homme, les garçons voient cet homme qui gratte par terre, qui fait un dessin dans la poussière par terre.
Prita Samarasan, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que l'on puisse dire que votre roman est d'une façon un roman qui traite de ce même sujet, c'est-à-dire de la dégradation, de la chute de l'homme? Kunal Bazou a utilisé tout à l'heure l'expression d'homme vaincu. Est-ce qu'on pourrait également l'utiliser pour vos personnages?
Quand vous parlez de la dégradation, de la chute d'un homme, vous pensez au personnage du père ou...
Non, en fait, je pense de façon générale, parce que en fait, quand on lit votre roman, cette entité de la famille, on a l'impression que c'est un groupe qui est tellement scellé, dont le destin est tellement scellé, que la chute de l'un entraîne la chute des autres.
Oui. D'un côté, oui, il y a ce qu'on pourrait appeler une chute. Mais de l'autre côté, je pense, je viens de me rendre compte que il y a aussi le fait que la vie va continuer pour cette famille, que la vie n'a pas changé, que beaucoup a changé dessous la surface, mais que en fait ils vont garder leur grande maison, le père il va continuer à travailler comme toujours, et c'est encore un reflet de la Malaisie, parce que si vous alliez en Malaisie, vous verriez que pour un touriste, par exemple, vous allez voir des grandes rues, des centres commerciaux, des 4x4 dans les rues, il y a plein de richesses. Vous allez voir un pays qui paraît avoir atteint tous les rêves des anciennes colonies, parce que dans l'Asie du Sud-Est, la Malaisie est souvent citée comme exemple de la réussite. Mais comme dans la famille, il y a toujours il y a une question d'une chute morale ou une chute émotionnelle, une chute mentale qui existe dessous la surface, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, de cette sensation de manque d'espoir, de la certitude que rien ne peut changer. Et c'est à la fois une très bonne chose que rien ne va changer, que la vie va être toujours comme ça, qu'on va toujours pouvoir aller au centre commercial, acheter des vêtements, des gâteaux, tout ce qu'on veut. Mais de l'autre côté, que cette apathie, aussi va continuer, à moins que quelque chose, à moins que la vie devienne vraiment insupportable pour la plupart des gens, rien ne va changer dans le pays.
Et ça passe aussi par les sentiments, parce que peut-être qu'on l'a pas suffisamment dit, mais cette dégradation, elle touche aussi l'amour dans le couple, elle touche l'amour entre les frères et les sœurs, notamment entre les deux sœurs, hein, avec une petite sœur qui voit partir sa grande sœur chérie et qui en souffre terriblement. Donc ce sont des êtres qui vivent aussi à l'intérieur d'eux-mêmes des blessures très grandes.
Oui, c'est ce que j'essaie de dire, en fait, que comme dans la famille, le pays aussi vit des blessures assez grandes qui sont jamais discutées. Comme le grand exemple dans mon roman, c'est les émeutes de 69 qui, bien sûr, il y a un discours permis. Le gouvernement parle assez souvent des émeutes, mais il y a qu'un seul discours permis par le gouvernement, et toutes les autres histoires de ces émeutes sont cachées dessous la surface. Donc le discours permis, c'est que en 1969, pour des raisons très compliquées, la violence a éclaté dans les rues, et pour éviter ça, on doit accepter la société divisée, on doit accepter les privilèges pour les Malais, on doit accepter tout ce qui est prescrit par le gouvernement pour éviter ça, parce que c'était l'horreur. Des questions assez importantes, comme par exemple, est-ce que c'était vraiment une tragédie si grande? D'autres pays avaient perdu beaucoup plus de personnes. Il y avait des tragédies beaucoup plus grandes en Inde, en Asie du Sud. Est-ce que c'est pas permis de poser des questions sur cet événement? Et je pense que j'ai voyagé un peu loin de votre question, mais
oui, non, mais c'est bien ça. Oui, c'est absolument ça. Mais de même que on pourrait dire aussi qu'il est, par exemple, absolument interdit d'aborder la question de l'adultère, et qu'il est traité d'une manière absolument incroyable dans le roman, c'est-à-dire que on a l'impression d'une société où tout le monde fait semblant de ne pas savoir, alors que tous les voisins sont au courant, tout le monde sait. C'est absolument terrible. Il y a une sorte de chape de plomb sur le fait que on n'a pas raconté toute l'histoire, parce qu'il se passe énormément de choses, mais le père de famille a une liaison. Alors c'est intéressant, parce qu'il a une maîtresse qui est chinoise, ce qui est une autre composante, bien évidemment, de la société malaisienne, et qui fait que le paysage, du coup, là, se complète. Mais on pourrait dire qu'il y a la même chape de plomb sur l'adultère et sur les événements politiques.
Oui. Des choses, comme vous avez dit, que tout le monde sait, et qu'on ne peut jamais discuter. Comme par exemple, je retourne toujours aux émeutes, mais les gens savaient à l'époque que les émeutes étaient largement arrangées par certaines factions dans le gouvernement. Et donc, comme vous avez dit, il y a des choses qui sont des secrets ouverts, des choses qui sont connues par tout le monde, qui ne se disent pas.
Alors, je viens d'avoir un petit signe. Est-ce que peut-être on fait passer le micro dans la salle pour demander s'il y a des questions à poser à Kunal Bazou ou à Prita Samarazan, pour ceux d'entre vous qui ont déjà lu leur roman, ou bien des questions qui ont été abordées au-delà des textes? Aucune question? Non? Bon, eh bien alors, dans ce cas, il me reste à vous remercier tous les deux infiniment, et merci à vous tous, et bonne fin de soirée.